Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme. Le Saint-Père a poursuivi mercredi 10 avril, place Saint-Pierre, son cycle de catéchèses sur les vices et les vertus lors de l'audience générale, évoquant la fosse d'âme, cette fosse qui nous aide à résister aux tentations et à surmonter les obstacles, la peur et les persécutions. Nous en saurons davantage dans quelques instants. Dans l'actualité de l'Église en Afrique, au Burkina Faso, Mgr Prosper Kontiabo a procédé dimanche 7 avril à la consécration de la chapelle Saint-Jean de Bendogo de la paroisse Saint-Charles Louanga de Wayaldia, un lieu de culte construit par des catholiques et des musulmans. En Côte d'Ivoire, Mgr Raymond Awa, évêque de Grand Bassam, a ordonné diacre 22 étudiants de l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus à Abidjan. Ces nouveaux diacres ont été invités à l'annonce de l'Évangile au monde. Au Sénégal, où le vital lien maritime Dakar-Casamance a repris mercredi, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a demandé mardi à son premier ministre Ousmane Sonko un vaste état des lieux de la situation économique et financière. Plus de détails dans l'actualité sociopolitique qui nous conduira en Afrique du Sud, en Éthiopie, au Togo, entre autres. Dans la deuxième partie de cette édition, nous serons en République démocratique du Congo pour parler d'environnement et au Soudan, où la guerre toujours en cours a causé le déplacement de plus de 560 000 Soudanais au Tchad, occasion pour Médecins sans frontières d'appeler des ONG, des bailleurs et des personnes de bonne volonté à redoubler d'efforts pour venir en aide à ces réfugiés.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
La fosse d'âme a été mercredi au cœur de la catéchèse du pape François qui l'a poursuivi sur les vices et les vertus. Lors de l'audience générale, l'évêque de Rome a insisté sur cette vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Pour lui, il y a des ennemis intérieurs que nous devons vaincre. Les précisions de Myriam Sandouno.
La force d'âme reste la plus combative des vertus, a tout d'abord déclaré le pape. Si la prudence, première des vertus cardinales, est d'abord associée à la raison de l'homme et que la justice trouve sa place dans la volonté, la force d'âme est souvent attachée à ce que les anciens nommaient la putie irascible, a dit François. Dans cette troisième vertu, le pape fait remarquer deux mouvements, l'un passif et l'autre actif. Dans le premier, existent des ennemis intérieurs que nous devons vaincre, l'anxiété, la peur, la culpabilité. A-t-il expliqué. Aux épreuves intérieures s'ajoutent les ennemis extérieurs, les épreuves de la vie devant lesquelles la force d'âme fait alors de nous des marins résistants qui ne se découragent pas. Cette vertu fondamentale prend au sérieux le défi du mal dans le monde. Face aux guerres, aux pressions des pauvres et blessures qui saignent encore, la force nous fait réagir et crier, je cite, un non catégorique. Un chrétien sans courage qui ne plie pas ses forces au bien, est un chrétien inutile, a lancé François, invitant pour terminer à redécouvrir dans l'Évangile la force d'âme de Jésus et à apprendre du témoignage des saints.
Impariamola dalla testimonianza dei santi e delle sante.
Et au thème de cette audience générale, le pape François a tourné ses pensées vers les frères et sœurs qui souffrent tant à cause des conflits. Évoquant l'Ukraine, la Palestine et Israël, le Saint-Père a également exprimé sa sympathie pour le peuple du Kazakhstan, touché par une inondation massive ayant dévasté des villes entières et forcé plus de 96 000 personnes à évacuer. Au Burkina Faso, catholiques et musulmans construisent ensemble une chapelle, la chapelle Saint-Jean de Bendogo, dans la paroisse Saint-Charles Louanga de Wayaldia. À l'occasion de cette consécration, le dimanche 7 avril, l'archevêque de Ouagadougou, Mgr Prosper Kontiabo, a salué et remercié la communauté musulmane locale pour sa contribution. Paul Da.
En félicitant tous les protagonistes qui ont permis à cette œuvre de voir le jour, Mgr l'archevêque a fait mention spéciale de la communauté musulmane qui s'est associée à la communauté chrétienne pour sa construction et notamment l'Agi Tassere Odraogo qui a contribué à l'acquisition du terrain. Ce dernier, pour sa part, a rappelé que Dieu a créé les hommes tous égaux avant de préciser. Nous avons les mêmes origines depuis Noé en passant par Ismaël et Isaac jusqu'aux prophètes Issa et Mohamed. D'ailleurs, les lieux saints de l'islam sont au niveau de trois endroits, à savoir la Mecque, Médine et Jérusalem, et dans ce troisième site, musulmans comme catholiques y prient. L'archevêque a conclu en souhaitant que Dieu garde les différentes communautés dans l'unité, la cohésion sociale et l'amour et fortifie leur foi. Saisissant l'occasion du dimanche de la divine miséricorde, Monseigneur Prosper a souhaité que le Seigneur déverse sa miséricorde sur toutes les communautés et le Burkina Faso qui en a tant besoin. Paul Daouadou pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam, a ordonné samedi 6 avril la diacre, 15 jésuites, 5 oblats de Saint-François de Sales et 2 clercs de Saint-Viateur, tous étudiants de l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, ITCJ, à Abidjan. La messe d'ordination qui a eu lieu en la chapelle du dit institut a réuni de nombreux fidèles. Dans son homélie, Mgr Awa a exhorté les nouveaux diacres, à l'instar des apôtres, à obéir à la parole de Jésus, aller de par le monde, annoncer la bonne nouvelle du salut à toute la terre. Marcel Ariston-Blé.
À la suite de la recommandation du Christ faite à ses disciples, Mgr Raymond Awa, dans son homélie, a exhorté les ordinants à en faire de même, à aller de par tout le monde annoncer la bonne nouvelle du salut à toute la terre.
Mes chers diacres, faites tout simplement comme les apôtres, à l'état de votre foi, à l'état de votre croissance, à l'état de ce que vous savez, faites comme les apôtres. En obéissant à la parole de Jésus.
Connaissant les réalités inhérentes à la mission et la fragilité qui caractérise l'homme, l'évêque de Grand Bassam les a invités surtout à s'abandonner entre les mains du maître de la moisson. Ordonné pour le service, Mgr Awa leur a rappelé les tâches liées à leur nouvelle mission.
Votre diaconie doit passer par l'annonce de la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Ce faisant, à partir de l'écoute de cette même parole, que vous allez proclamer, l'Esprit Saint se chargera de conduire le peuple de Dieu à la vérité tout entière.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
L'actualité sociopolitique africaine à présent. Environ 200 voyageurs ont repris avec allégresse dans la nuit de mardi à mercredi le bateau entre Dakar et la Casamance dans le sud du Sénégal après des mois d'arrêt durement ressentis par la population à la suite de troubles dans le territoire enclavé. Les autorités d'alors ont suspendu en juin 2023 la liaison assurée par les trois bateaux de la compagnie Kozama qui transportaient chaque semaine des centaines de voyageurs entre la capitale et la Casamance, quelques centaines de kilomètres au sud, en longeant la côte atlantique dans les deux sens. La mesure a été prise dans un contexte d'agitation meurtrière à laquelle Jingenshaw était en proie comme Dakar et d'autres villes après la condamnation de l'opposant politique Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs. Toujours au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a demandé mardi à son premier ministre Ousmane Sonko un vaste état des lieux de la situation économique et financière et d'élaborer un plan d'action. M. Faye a par ailleurs demandé au gouvernement de finaliser avant la fin du mois d'avril 2024 le plan d'action du gouvernement avec un agenda précis de la réalisation des objectifs fixés suivant le programme avec lequel il a remporté l'élection présidentielle. La police sud-africaine a annoncé mercredi avoir procédé à l'arrestation de 6 suspects une semaine après le meurtre du footballeur Luc Fleur qui évoluait au Kaizer Chiefs de Johannesburg. Le défenseur central de 24 ans avait été visé par des tirs d'armes à feu à la fin de la semaine dernière alors qu'il faisait le plein de sa voiture dans une station-service dans la banlieue nord-ouest de la ville et avait été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. En Afrique du Sud, toujours une victoire pour l'ancien président du pays Jacob Zuma. Malgré les nombreuses affaires de corruption qui pèsent sur lui, un tribunal a annulé son exclusion des prochaines élections législatives au mois de mai. À 81 ans, Zuma va donc pouvoir se présenter sous les couleurs d'un petit parti récemment créé. À Johannesburg, la correspondance de Joséphine Klockner.
C'est un nouveau revers pour l'ANC au pouvoir et une nouvelle victoire pour Jacob Zuma, l'ancien président qui a décidé de de faire campagne cette année pour un autre parti, le MK, pourra bien en être candidat aux élections générales du 29 mai. La commission électorale avait invalidé sa candidature fin mars, évoquant les conditions d'éligibilité prévues par la Constitution qui excluent les personnes condamnées à plus de 12 mois de prison. Orzouma avait été condamné en 2021 à 15 mois de prison pour outrage. Mais la justice a renversé mardi cette décision. L'avocat du parti MK avait en effet questionné la légitimité de la commission électorale à prendre cette décision et estimé que la peine finale en question n'avait été que de 3 mois, suivant une remise de peine. Le retour de Zuma, qui malgré les accusations de corruption séduit toujours un large électorat zoulou, est une menace pour l'ANC qui pourrait perdre cette année sa majorité absolue pour la première fois depuis 30 ans. Johannesburg, Joséphine Klockner pour Radio Vatican.
Un opposant éthiopien, Bat Oujessa, a été retrouvé tué par balle mercredi, quelques heures après avoir été arrêté par des forces gouvernementales dans le centre de l'Éthiopie, a annoncé son parti, le Front de Libération Oromo. Le Togo a reprogrammé la tenue des élections législatives au 29 avril après leur report dans le contexte de l'adoption d'une nouvelle constitution fin mars, a annoncé la présidence dans un communiqué publié mardi. Le scrutin devrait avoir lieu le 20 avril, mais le gouvernement togolais les avait repoussés pour mener des consultations sur la nouvelle constitution considérée par plusieurs partis d'opposition comme une manœuvre pour maintenir le président fort Yassingbé au pouvoir plus longtemps. Poursuivons notre édition en parlant d'environnement et c'est avec Marie-Josée Mwando Boboalo.
En République démocratique du Congo, les crues exceptionnelles du fleuve Congo ont causé entre novembre 2023 et février 2024 plusieurs morts d'hommes et d'énormes dégâts. Les prédictions établies pour les mois de mars, avril et mai soulignent une augmentation significative des précipitations dans ce pays. Devant cette situation catastrophique, l'Église ne baisse pas les bras. Comme nous le témoignent Madame Prudence Kanigi et Monsieur Marcelin Aksanti, membres du comité Laudato Si de l'archidiocèse de Bukavu, ils travaillent dans le cadre de l'assainissement du milieu urbain comme méthode préventive contre les éboulements, conséquences des pluies diluviennes.
Les femmes, toutes les femmes de nos diocèses se sont engagées dans la sensibilisation contre la protection de l'environnement. Dans le sens où elles se sont décidées de sensibiliser tout le ménage au niveau de leur paroisse, les sensibiliser si à ne plus jeter des saletés, par exemple dans des endroits comme dans des véhicules, des taxis, des bus. En tout cas, elles sont mobilisées à protéger l'environnement au niveau de notre province et aussi au niveau de nos paroisses. Elles veulent à ce que le chef des 10 maisons puisse les aider à cette sensibilisation afin que nous puissions retrouver notre environnement sain et aussi protéger notre nature.
Aksanti Marcelin, membre de la communauté protestante de Bukavu, nous parle aussi de son engagement dans l'assainissement de la nature. On l'écoute.
Les confessions religieuses s'étaient mises ensemble et ils ont vu que, par rapport à ces messages du pape qui considère que le monde est une maison commune et que nous tous nous sommes appelés à bien protéger, les confessions religieuses sont mises ensemble et ils ont vu que, si réellement, notre population est informée sur les situations que traverse le monde par rapport à la protection de l'environnement et que s'ils savaient ce que disent les lois par rapport à cette protection et si le changement de mentalité et de conscience collective est observé de par cette population, nous savons que nous pouvons bien protéger cette planète. Donc, cette terre est une maison commune pour nous tous. Et c'est ainsi que, par rapport aux objectifs qui s'est fixé ce comité Laudato aussi au niveau du site Kivu, qui a été mis en place par la CDJP, nous voulons amener les autorités et les prestataires de services pour pouvoir prendre des mesures et adopter des comportements qui favorisent la protection de l'environnement et améliorer les pratiques de gouvernance.
La guerre au Soudan, toujours en cours, a causé le déplacement de plus de 560 000 Soudanais qui ont trouvé refuge au Tchad, ainsi que des Tchadiens obligés de quitter le Soudan pour retrouver leur pays. Presque un an après le début de cette guerre, les besoins en aide humanitaire restent énormes et les réfugiés sont menacés par la famine et les maladies causées par le manque d'eau potable. C'est ce que nous explique Justine Lefeuve, responsable du plaidoyer aux Médecins sans frontières, qui appelle des ONG, des bailleurs et des personnes de bonne volonté à redoubler d'efforts pour venir en aide à ces personnes qui sont dans le besoin.
Aujourd'hui, on est presque à un an que le conflit a commencé au Soudan et donc on dénombre plus de 560 000 réfugiés soudanais qui sont arrivés à l'est du Tchad dans des provinces qui étaient déjà touchées par des besoins assez conséquents, notamment en termes de sécurité alimentaire. Et en plus de ces 560 000 réfugiés, il y a une vague de retournés tchadiens qui vivaient donc au Soudan et qui ont été contraints de retourner au Tchad suite aux violences. Ce qui nous désole chez Médecins Sans Frontières, c'est qu'aujourd'hui, presque un an après la crise, on voit que les besoins sont toujours énormes. Les besoins de première nécessité ne sont toujours pas couverts, notamment en termes de tout ce qui est eau et hygiène et aussi d'accès à la nourriture. Donc c'est des conditions aussi bien dans le camp de transit d'Adré, qui est à côté de la frontière soudanaise, où il y a encore plus de 100 000 personnes, que dans les camps où les réfugiés ont été relocalisés. Les conditions de vie restent inacceptables et insalubres et ne respectent pas la dignité de ces individus.
Et qu'en est-il de la propagation de l'hépatite E dans les camps de réfugiés ?
Chez MSF, ça fait plusieurs mois qu'on alerte sur l'urgence de la situation. Et notamment, là, récemment, il y a eu des cas d'hépatite E qui sont apparus dans ces camps et qui sont, on le sait très bien, directement finalement liés à un manque d'infrastructures d'hygiène et un accès limité à l'eau potable. Donc sur ces cas d'hépatite E, on en dénombre plus de 2300 maintenant, principalement dans le site de transit d'Adré, où les réfugiés sont donc dans l'attente d'être logés. Mais finalement, ce n'est que donc ces cas d'hépatite E, ce ne sont que la conséquence du manque d'eau potable et du manque de latrines. Par exemple, dans le camp de transit d'Adré, on a une latrine pour 677 personnes en moyenne, ce qui est évidemment bien en dessous des standards d'urgence.
Comment s'active sur le terrain Médecins Sans Frontières pour assister ces personnes désespérées?
Tout d'abord, il y a tout le volet donc eau et hygiène. MSF fournit à l'est du Tchad donc plus de 70% de l'eau potable dans 4 camps. Malgré ces efforts, les gens là-bas ne reçoivent que 11 litres d'eau potable par jour en moyenne, ce qui est bien inférieur aux 20 litres par personne par jour qui sont recommandés. Donc en plus de ça, on fournit des soins de santé dans le site de transit d'Adré, à l'hôpital d'Adré et dans des centres de santé, avec une prise en charge des cas les plus compliqués. Voilà, et notamment tout ce qui est santé sexuelle reproductive et pédiatrie et chirurgie. Et évidemment, dans nos activités, on construit aussi des latrines et on assure leur bon fonctionnement, parce que évidemment, les latrines, surtout avec la saison des pluies qui approche, les latrines mal entretenues peuvent mener à la propagation de maladies d'origine hydrique. Donc on fait aussi attention à ça. Malheureusement, beaucoup de ces personnes sont aussi très préoccupées par le fait de répondre à leurs besoins de première nécessité. Comme je le disais, ils n'ont pas de nourriture ou peu. Ils ont des conditions de vie insalubres avec un manque d'eau potable, etc. Donc c'est leur priorité avant toute autre chose, ce qui est tout à fait compréhensible. Après, on peut nier que dans des conditions telles qu'elles sont aujourd'hui, ce sont des gens qui parfois sont traumatisés et ont besoin d'un soutien psychologique. Donc nous, chez MSF, on emploie aussi des psychologues et on leur fournit des sessions d'écoute.
Ces réfugiés vivent une situation difficile. Gardent-ils l'espoir d'un retour probable à la normale?
Je pense que ces gens-là tentent de ne pas perdre espoir. C'est tout ce qu'il leur reste aussi. Donc ils gardent le cap et puis ils ont souvent une famille, des enfants, des personnes, disons, avec des besoins spécifiques dont il faut s'occuper. Donc, je pense qu'ils font tout pour essayer de garder espoir, de garder le moral et puis de continuer en espérant que leur situation s'améliore.
Est-ce que l'implication de la communauté internationale se fait ressentir?
C'est vrai qu'on constate que les messages qu'on fait passer en tant qu'MSF à la communauté internationale restent les mêmes. Foncièrement, en fait, un an après, encore une fois, le début de la crise, on est très conscient qu'on est aussi dans un contexte mondial de baisse des fonds de l'aide humanitaire, avec beaucoup d'organisations qui ont des problèmes parfois à mener à bien leurs activités dû à un manque de fonds. Mais malheureusement, du coup, on est toujours en train d'appeler effectivement les bailleurs de fonds internationaux et les autres organisations humanitaires à intensifier d'urgence leur action afin de prévenir une crise médico-humanitaire, et notamment en améliorant l'assainissement, tout ce qui est eau, hygiène, assainissement dans les camps de réfugiés. Et donc, on renouvelle notre appel à la communauté internationale, aux bailleurs de fonds, pour qu'ils redouble d'efforts dans la mesure du possible pour aider toutes ces populations affectées, les réfugiés soudanais, mais aussi les retournés tchadiens et les populations tchadiennes sur place qui ont beaucoup de besoins. On appelle donc tous ces acteurs à s'engager pour leur venir en aide.
Justine Lefeuve, responsable de plaidoyer aux Médecins sans frontières, interrogée par Myriam Sanduno.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.